Africa.
Ambiance.
Ambiance Africa.
Africa.
Avec Aïssa Cham.
Prenons à présent la direction d'Abidjan pour accueillir en duplex notre première invitée de la semaine, déjà installée sur le plateau. Bonjour, et d'abord j'en profite pour saluer les équipes et surtout le commandant de bord du jour, Alkali Fadiga. Bonjour Alkali, est-ce que la connexion est bonne? Est-ce que tout va bien? Est-ce que notre invitée est bien installée? Bonjour.
Bonjour Aïssa, la connexion est très bonne, l'invité est déjà en place.
Très bien, allons-y donc avec Agnès Crédy qui est journaliste, écrivaine, elle est aussi formatrice et consultante en genre et médias, présidente de la fondation Agir contre les cancers, FAC, mais aussi présidente du réseau des femmes journalistes et des professionnels de la communication en Côte d'Ivoire. Elle est aussi conseillère technique au ministère de la communication et des médias. On est très heureux de l'accueillir pour parler de son actualité. Bonjour Agnès Crédy, vous allez bien?
Bonjour Aïssa Thiam, merci beaucoup, je vais bien. Et vous-même?
Ça va très bien. Alors allons-y donc pour parler de votre actualité à travers votre troisième ouvrage intitulé Les Affranchis du sort, l'histoire de femmes et d'hommes qui ont vaincu leur handicap. Donc c'est un livre lumineux, très instructif et plein d'espoir. 20 histoires exceptionnelles, des véritables leçons de vie. Alors dites-nous un petit peu ce qui vous a poussé à rédiger cet ouvrage pour commencer, Agnès.
Mais déjà, je pense un devoir de montrer la réalité de certains aspects de nos vies qu'on néglige tout le temps. Et puis aussi, en tant que journaliste, le devoir de montrer la société dans sa différence, dans ses différences, dans sa diversité, et non de la subir, et non d'en être simplement le reflet. Pousser la société à se regarder afin de pouvoir réfléchir sur elle-même, sur certains aspects de son existence qu'elle ignore toujours ou qu'elle ne regarde pas suffisamment bien, je pense.
Absolument, puisque l'OMS estime que plus d'un milliard de personnes à travers le monde, soit 15% de la population mondiale, souffrent d'une forme ou d'une autre de handicap. C'est donc un sujet universel, Agnès Crédy.
Tout à fait, sans oublier que nous sommes toutes, chacun d'entre nous, chacune, un handicapé en sursis. On ne sait jamais ce qui pourrait arriver, un accident, un AVC, un choc. Et puis tout d'un coup, le corps qui s'ébranle, le corps qui s'effondre, le corps qui s'affaisse.
Alors le 3 décembre prochain, c'est jeudi, c'est la journée internationale des handicapés. À cette occasion, vous présenterez cet ouvrage au public sous le patronage et en présence de Monsieur le Premier ministre Ahmed Bakayoko et de nombreuses personnalités. Le rendez-vous, c'est à 9h au Palais de la Culture. On redonnera le rendez-vous dans un petit instant. Alors c'est un ouvrage qui a été préfacé par le Premier ministre décédé Amadou Gon Coulibaly. Alors dans quel contexte c'est réalisé, c'est cette préface? Dites-nous un petit peu pourquoi vous avez décidé qu'il préface votre ouvrage.
J'avais besoin de grandeur, j'avais besoin de hauteur, j'avais besoin qu'une personnalité d'un haut niveau justement s'engage aux côtés des personnes en situation de handicap pour justement montrer la posture étatique et républicaine d'un pays à côté de ses enfants en situation de fragilité ou fragilisés. Et puis j'avais besoin aussi que ce soit lui parce que nous avons une forme de proximité, une forme de gémellité. Nous sommes tous les deux le 10 février, donc on se complaisait à s'appeler nos jumeaux. Donc pour moi, c'était aussi un cadeau à mon jumeau. Et puis troisième chose, et peut-être première chose la plus essentielle, c'est ne pas oublier qu'il avait lui aussi une forme de fragilité.
Ouais.
Mais sauf que jusqu'au bout, il y est allé, jusqu'à la tâche, il est mort. Et je crois que c'est l'exemple que nous donne aussi à apprécier toutes ces personnalités qui sont dans le livre. C'est de montrer que malgré le corps fragilisé, malgré un handicap, quel qu'il soit, on est capable de se construire, de se lever au-dessus de cette fragilité et d'aller jusqu'au bout de son rêve et de sa réalisation personnelle, professionnelle. C'est ça, Amadou Gon Coulibaly, qui a été. Et puis, la postface est signée d'un roi, Sa Majesté le roi d'Ebra.
Ouais.
Et pour juste une raison essentielle, c'est que l'Afrique a la sale habitude, pour ne pas dire la mauvaise manière, de toujours mettre à l'écart ces enfants fragilisés. Et souvent, comme on disait symboliquement, on les accompagnait. On ne les laissait pas vivre parce qu'on estimait qu'ils étaient des sorciers, qu'ils étaient des enfants serpents, qui rampaient, qui ne portaient pas bonheur à leur famille.
Oui.
Et ça a été de vrais drames dans les familles qui continuent d'ailleurs de le vivre ainsi, puisqu'il y en a qui continuent de cacher leurs enfants. Et le roi donc met en exergue Sunyata Keita, donc ce héros mandingue, ce roi du mandingue qui a montré au-delà du corps fragile, on peut être un grand homme d'État, on peut être un grand décideur d'État. Et ça a été donc de beaux exemples à célébrer parce qu'en fait, nos handicapés, quels qu'ils soient, quel que soit le niveau de fragilité, sont des personnes qui se réalisent, qui s'accomplissent, qui sont des êtres humains, tout simplement. Et ça, il ne faudrait pas qu'on l'oublie.
Alors justement, à travers cet ouvrage, vous retracez le parcours de 20 personnalités ivoiriennes qui ont vaincu leur handicap, vous venez de le dire, et qui sont devenues des références dans leur domaine. Alors, ils sont hommes politiques, ils sont magistrats, avocats, chefs d'entreprise, athlètes, acteurs de la vie civile, associative. Ils sont artistes et ont, malgré leur handicap physique, ont su atteindre leurs objectifs en restant debout. Alors, il est question de résilience, de combat, d'abnégation, de courage. C'est une ode à la vie, en fait, votre ouvrage, Agnès Crédit.
Tout à fait. Et aussi une invitation à changer de regard. D'ailleurs, le thème de la journée du 3 décembre en Côte d'Ivoire, c'est « Et si on changeait de regard ?» L'idée, c'est de dire, arrêtons de croire qu'une personne en situation de handicap est forcément destinée à être un mendiant. Et que cette personne n'a rien à faire à part se coucher et attendre d'être prise en charge ou d'être dans la dépendance totale. Tu vois, c'est vraiment cela. C'est à la fois de la résilience, vous m'avez dit, c'est à la fois de l'abnégation, c'est du courage, c'est de la foi et c'est du travail aussi. Mais c'est surtout montrer à cette société qu'elle refuse d'intégrer ses enfants fragilisés parce que pendant que ses enfants font des efforts pour s'intégrer, on ne fait rien pour les intégrer. Et ça, c'est un vrai drame qu'il faut pouvoir donc rappeler en permanence pour qu'on construise des espaces publics qu'on rend accessible, qu'on puisse construire des écoles suffisamment pour prendre en charge les enfants en situation de fragilité, en situation de handicap, qu'on permette à chaque citoyen, malgré son handicap, de pouvoir réaliser son rêve et même d'avoir un rêve, ne serait-ce que ça, ne serait-ce que d'avoir un rêve.
Alors vous nous expliquez justement au début du livre, dans l'avant-propos, vous dites que vous êtes retrouvé à l'université d'Abidjan au milieu des années 80 avec une jeune dame handicapée physique qui marchait avec beaucoup de difficultés. À Ouattara, aveuglée, vous dites, aveuglée par mes propres difficultés, je ne voyais pas les contraintes qui contrariaient au quotidien son existence. C'est un témoignage qui est très fort et qui explique un petit peu également la raison pour laquelle vous avez publié, en tout cas rédigé cet ouvrage.
Oui, tout à fait, Aïssa. Mais en fait, c'est une espèce de mauvaise conscience qui s'invite dans ma conscience en réalité. Parce qu'en fait, quand je commence à écrire l'histoire, c'est là que ça me revient. Je me dis, oui, mais je cherchais des héros. Mais j'en avais une à côté de moi que je n'avais pas vue.
Oui.
En plus, on n'avait pas la patience de croire qu'elle était fragilisée. On courait, chacun de nous avait ses contraintes, chacun voulait réussir. Personne ne pensait à Awa, elle ne traînait ses pas derrière nous. Et nous, on avançait, en gros, on la poussait à aller à notre rythme, alors qu'on oubliait qu'elle était différente de nous, sans être si différente que cela. Et c'est vrai qu'autour de nous, il n'y a qu'à regarder. Je crois qu'en fait, c'est une espèce d'invite à chacun d'entre nous, à chacune, à regarder un peu plus délicatement l'autre, à voir la fragilité de l'autre, sans forcément la juger, cet autre-là ou cette personne.
Alors, où est-ce que ces personnes trouvent les ressources pour rester debout et surtout pour avancer vers les sommets?
Je crois que c'est une question de dignité humaine.
Oui.
C'est simplement une question de dignité humaine. C'est de se dire, je suis un être humain, je compte, je veux compter, j'existe, je veux exister. Je veux être là, je veux pouvoir me réaliser, je veux pouvoir réaliser mon rêve. Je crois que c'est cela, c'est ce qui les maintient debout chaque jour. Ils se lèvent, ils savent que la société les contrarie dans leur existence physique. La société n'a pas d'espace pour eux de manière réelle, mais ils sont obligés d'avancer, d'être là et toujours être là.
Alors comment avez-vous recueilli ces témoignages, dans quel contexte et ça vous a pris combien de temps?
Ça a été trois ans de recherche, le temps de trouver la bonne personne qui veuille d'abord se livrer, se dévoiler, s'exposer, ensuite avoir des adresses, des contacts, des numéros de téléphone, les vérifier, aller toujours vers les autres personnes et tenter de les convaincre de l'intérêt de vous accompagner dans cette belle aventure humaine. Et puis au bout de compte, avoir la confiance, mériter de leur confiance, et puis surtout, publier ces textes et puis le leur faire lire pour que ces personnes valident et se disent que ces textes ne les exposent pas trop, ne les fragilisent pas suffisamment, ni encore plus. Donc qu'elles aient accepté cette belle aventure. Pour moi, ça a été ça la plus belle réussite dans cette affaire, c'est de se dire avoir mérité de leur confiance. C'était pas évident, j'en avais peur parce qu'elles auraient pu se rébiffer en disant c'est pas ma vie, je veux pas qu'on la lise, je veux pas qu'on le sente. Ils sont allés jusqu'au bout, des non-voyants qui ne vous voient pas mais qui vous font confiance. Ils se disent cette voix, je l'entends, je marche avec vous. Et ça a été ça qui était fabuleux. Il y a eu des histoires, il y a des rencontres, je veux dire, des hommes de Dieu qui sont non-voyants, c'est des aventures fabuleuses, des enseignants qui sont non-voyants, des avocats qui sont non-voyants. Vous vous dites, waouh, quelle grandeur. En fait, ils nous rappellent à notre petitesse, nous qui sommes, semble-t-il, valides.
Alors, c'est un sujet, en tout cas, que vous développez sur vos réseaux sociaux à travers votre page Facebook, et je vais vous emprunter l'un de vos textes. Alors, le monde qui nous entoure est un fleuve de joie, de souffrance, mais aussi d'expérience. C'est d'une manière ou d'une autre, chacun porte sa croix. Le sort semble s'acharner beaucoup plus sur les personnes en situation de handicap. Mais là où certains choisissent la résignation et la mendicité, d'autres décident de s'affranchir de ce sort. Alors vous dites, sur leur longue marche parsemée d'embûches, ces derniers font preuve d'abnégation et de ténacité. Ces valeurs qui les caractérisent méritent d'être enseignées aux jeunes générations. Et c'est là que je voulais en venir. Et vous terminez en disant, surtout en cette période où notre société tend à manquer véritablement de repères et de modèles. Alors justement, apporter ces modèles et raconter ces histoires aux jeunes générations, c'était aussi l'un de vos objectifs.
Tout à fait. En fait, un livre de motivation. Ouais. Devant des jeunes qui passent leur temps à pleurnicher, oui, on ne fait rien pour moi, personne ne veut m'aider. Ils ont un corps totalement valide. Ils pouvaient donc se comprendre. Et je crois que le fait peut-être de voir ces histoires vont leur rappeler qu'en fait, ils doivent peut-être se plaindre autrement. Pas de reprocher aux autres de ne rien faire pour eux, mais de comprendre qu'ils ont toutes les capacités et toutes les possibilités pour se réaliser. Donc, éveiller, réveiller, rassurer, convaincre, pousser, motiver. C'est aussi cela qu'on puisse avoir à partager comme élément de repère à travers ces vies, ces témoignages de vie qui sont de vraies leçons de vie, de vraies leçons de vie.
Alors, jeudi, c'est la journée internationale des personnes vivant avec un handicap. Juste, on va en profiter pour faire juste un petit point de la situation, notamment en Côte d'Ivoire. Alors, quelles sont les difficultés auxquelles sont confrontées au quotidien les personnes qui vivent avec un handicap physique aujourd'hui en Côte d'Ivoire ? Et est-ce que depuis les années 80, leurs conditions se sont améliorées ?
Non, je ne crois pas. Les multiples crises dans notre pays, justement, au contraire, entravent leur situation. C'est dramatique parce que, comme disait un des héros du livre, quand il y a un pays qui est en crise, quand vous êtes non-voyant, vous ne savez pas où courir quand tout le monde tente de se protéger. Donc, du coup, ils sont en permanence exposés dans les situations de crise ou des situations d'instabilité. Donc, la situation, bien au contraire, ne s'améliore pas pour ces personnes-là.
Ouais.
Et puis donc, le 3 décembre, le thème autour duquel nous pensons pouvoir nous retrouver, c'est « Et si on changeait de regard ?» Changer de regard, c'est à la fois questionner son propre regard. Est-ce que ce que je vois est ce que je dois voir? Ou alors, est-ce que ce que je vois est ce que je pense être capable de montrer aux autres ou montrer des autres? Et puis ensuite, changer de regard, c'est aussi changer sa manière de penser, sa manière de s'interroger, sa manière de questionner son environnement. Oui. Je crois que c'est important de voir cela. Mais changer de regard, c'est aussi voir que les bâtiments publics ne sont pas accessibles à ces personnes en situation de handicap. C'est de voir qu'il n'y a pas assez d'institutions pour prendre en charge nos enfants en situation de handicap. C'est de voir que la question de l'employabilité est un vrai problème au niveau des personnes en situation de handicap. Et que c'est de voir que les carrières de ces personnes sont souvent freinées parce que nous avons des espèces de stéréotypes qui nous bloquent dans notre inconscient et qui finissent par peser sur des décisions qui entravent la vie de personnes qui mériteraient justement d'aller de l'avant et qui mériteraient d'être regardées vraiment autrement. Changer de regard, c'est tout cela. C'est être capable de questionner une société qui, elle, n'arrive pas à se poser des vraies questions quant à la prise en compte de ses enfants les plus fragiles. Je pense qu'une société n'a de la grandeur que lorsqu'elle a conscience qu'elle doit, de manière particulière, traiter ses enfants les plus fragilisés. C'est cela, les grandes nations. Et nous nous disons, une Côte d'Ivoire plus solidaire, ce serait bien, mais qu'elle soit en faveur des personnes en situation de fragilité ou des personnes fragilisées, c'est encore meilleur, d'ailleurs.
Alors, vous êtes Agnès Crédit, vous êtes écrivaine, vous êtes journaliste depuis avril 2014, vous êtes présidente du réseau des femmes journalistes et des professionnels de la communication de Côte d'Ivoire. Vous vous distinguez, dit-on, par votre plume engagée et vos prises de position radicales dans vos écrits. Vous êtes journaliste depuis plus de 20 ans et formatrice. Vous êtes entrée au groupe SNPE6, c'est le groupe qui édite le quotidien Fraternité Matin en 89. Vous avez longtemps été la première et seule femme rédacteur en chef du quotidien Fraternité Matin et aussi du magazine Femmes d'Afrique. Vous avez aussi interviewé de grandes personnalités dont les présidents Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara, mais aussi le Premier ministre Guillaume Soro. Vous êtes auteur d'autres ouvrages, précédents, notamment Chronique d'une guerre vaincue, qui est une compilation des éditoriaux que vous avez consacrés à la crise politique militaire en Côte d'Ivoire. Deuxième ouvrage sur la thématique du cancer, intitulé « Tu me fous les boules, vaincre le cancer ». Donc, alors, d'où vous vient cet engagement, puisque vous êtes également très investi dans la lutte contre ces maladies, en tout cas des cancers?
Alors, Aïssa, juste une précision pour montrer qu'il y a eu d'autres ouvrages qui n'ont peut-être pas traversé les frontières de la Côte d'Ivoire.
Allez-y.
J'ai eu un autre livre qui était donc intitulé « Une journaliste et un prétendant dialogue sur l'Afrique
oui. »,
des réflexions partagées sur notre continent. Il y a eu un autre qui est la biographie de la première femme à avoir conduit une voiture en Côte d'Ivoire au volant d'une vie de Marie-Béatrice Abamaké-Touré avec Marie-Béatrice Abamaké-Touré. Et puis, jusqu'au bout du rêve, qui est la biographie de M. Kadio Morocco, le fondateur d'une de nos entreprises du secteur du pétrole en Côte d'Ivoire, dont je tairai le nom pour ne pas faire de publicité. Donc il y a eu cela. Alors l'engagement, après il y a eu donc Tu me fous les boules, vaincre le cancer, qui est un engagement personnel, qui est une histoire vécue,
oui.
parce que j'ai été moi-même victime d'un cancer du sein, donc il fallait témoigner pour montrer qu'en fait, que malgré le cancer, on pouvait rester en vie, et on espère pouvoir rester encore en vie longtemps. Donc voici en gros, peut-être que dans l'inconscient révélateur, d'où pourrait venir le leitmotiv, ou alors le tilt qui a déclenché la volonté d'écrire sur les affranchis du sort, parce qu'en fait, nous sommes tous des affranchis ou du sort, ou des affranchis de la vie, ou de la mort peut-être, parce que nous sommes encore vivants. Donc, engagé, oui, impliqué, oui, journaliste surtout, parce que c'est notre métier que d'écrire et de toujours écrire. Et puis, à force, on finit par devenir auteur, donc par témoigner au-delà du quotidien.
Intéressé par les questions du genre également, puisque vous êtes aussi consultante à la Banque mondiale pour les consultations sur
les questions de genre.
Le genre en Côte d'Ivoire. Oui.
Oui, tout à fait, parce que les questions de femmes, oui, aussi. Ce sont les problématiques qui sont de notre quotidien, que nous soyons en Afrique ou ailleurs. On a la situation des violences faites aux femmes, qui sont des questions, des préoccupations quotidiennes. On a l'évolution de la vie des femmes, d'ailleurs, en termes de droits, en termes de lois, en termes de réalité sociale et sociétale, qui sont aussi des vrais questionnements qu'il faut pouvoir aborder, parce que nous sommes femmes et que nous sommes invitées justement à nous pencher sur ce qui marche dans notre société et surtout ce qui ne marche pas, quand on pense que c'est bien dommage que les sociétés comme les nôtres veulent évoluer en maintenant à l'écart la moitié de la population. Nous disons que c'est un peu raté en termes d'ambition, en termes de projection au niveau de notre évolution et de notre développement.
Oui.
Donc, des questions qui nous interpellent, des questions de fragilité, parce que les questions de genre, quand on parle de femmes aussi, ce sont des questions de fragilité. Des questions qui nous interpellent et qui nous invitent donc à réfléchir sur notre volonté de co-construire une société humaine dans laquelle chacune et chacun, malgré sa différence ou à cause de sa différence, pourrait donc pouvoir se réaliser. Ce sont tous ces engagements qui nous invitent à écrire au-delà donc du quotidien, au-delà de l'éphémère qu'est le journal.
Alors, où est-ce que les auditeurs qui nous écoutent peuvent se procurer l'ouvrage « Les affranchis du sort » ?
Il est disponible en librairie en Côte d'Ivoire. Il est disponible dans toutes les librairies. Je crois qu'il le sera encore plus à partir de cette semaine. Mais on a commencé déjà, l'éditeur a commencé déjà à les faire mettre en librairie. On en trouve dans certaines librairies déjà.
Très bien. Alors, on rappelle le rendez-vous jeudi 3 décembre à 9h au Palais de la Culture. Qui est invité? Qui peut venir à cet événement, Agnès Crédit?
C'est un espace ouvert. Hein. Donc, on considère qu'à partir de Africa Radio, nous lançons une invitation. Malheureusement, vous êtes si loin de nous, vous ne pourrez pas être là, et ça, mais bon,
absolument,
ceux qui sont ici iront. Et on vous contera donc cette belle histoire aussi de la rencontre du 3 décembre autour de « Et si on changeait de regard ?» pour voir quel sera le nouveau regard qu'on posera sur les personnes en situation de handicap dans notre pays et ailleurs dans le monde.
Comment vous avez envie de conclure cet entretien, Agnès Crédit ?
En invitant le monde à un peu plus de générosité, à un peu plus d'humanité. Je crois que la pandémie actuelle nous invite à comprendre que tout est vanité. Et notre résistance nous invite à être encore plus généreux, plus solidaires envers les autres. Il s'agit donc de co-construire un monde plus humain dans lequel chacun, pour ses fragilités, ou à cause de ses fragilités, pourra ne pas être exclu, mais bien au contraire, pourra être intégré, non pas parce qu'on aurait pitié de cette personne, mais parce qu'on aurait le sens d'une compassion plus développée, donc une humanité plus restaurée et plus grande.
Merci. On vous remercie en tout cas beaucoup d'avoir fait le déplacement d'être venu sur le plateau d'Africa Radio donc pour nous présenter cette actualité, Les Affranchis du sort, l'histoire de femmes et d'hommes qui ont vaincu leur handicap, un ouvrage que la radio africaine vous recommande vivement. Merci beaucoup, on vous souhaite un bel événement et on vous dit à très bientôt sur l'antenne d'Africa Radio.
Merci Aïssa, à très bientôt à vous chers auditeurs.